Bonjour à tous ceux que je n'ai pas salués. Et Gabriel, si tu veux remettre le texte que nous avons affiché la semaine dernière, qui est le verset duquel nous tirons notre mot d'ordre de cette année, ouvrier avec Dieu, qui est donc tiré de la première épître aux Corinthiens, et qui dit ceci: car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu, et le mot d'ordre qu'on a retenu, et le mot d'ordre donc qui est tiré de ce verset, ouvrier avec Dieu, que nous prenons pour nous-mêmes. Et si vous voulez le comparer au texte grec mot à mot, qui est en bleu en dessous, de Dieu, en effet, nous sommes collaborateurs. De Dieu champ, de Dieu construction, vous êtes. Et la semaine dernière, nous avons traité la première partie du verset jusqu'à vous êtes le champ de Dieu. Après avoir mis cette première partie du verset en relation avec la première partie du chapitre, et nous avons mis en évidence que Paul revenait sur une attitude des Corinthiens qui l'attristait, et dont il fait mention dès le début de l'épître, celle de se revendiquer soit de son propre enseignement, soit de celui d'Apollos, dans un but malsain. Et c'est cette utilisation qui en est faite, qu'il dénonce quelques lignes plus loin, et selon l'interprétation qu'on en fait, s'attacher à l'enseignement de l'un, hein, Apollos ou lui, et au détriment de l'enseignement de l'autre, ou selon une autre interprétation, qui n'exclut pas d'ailleurs forcément la première et pourrait même en être le prolongement, utiliser son propre enseignement, utiliser l'enseignement d'Apollos pour prendre l'ascendant sur un frère, prendre le dessus dans les confrontations d'idées entre frères. Mais Paul refuse d'entrer dans ce jeu, et ce jeu qui pourrait même aller jusqu'à créer une division dans l'Église, insérer un coin entre lui et Apollos. Et au contraire, il reconnaît le ministère d'Apollos, qui nous apparaît dans les Actes comme un ministère d'étayage de la foi des croyants, notamment en ce qui concerne l'accomplissement de la prophétie biblique à propos en la personne de Jésus. Et il compare l'action d'Apollos à celle d'un arrosage après plantation, la plantation que lui-même, l'image de la plantation correspondant mieux peut-être à son ministère personnel d'évangélisation et de pose des fondements de la foi chrétienne et de l'Église. Et dans cette image, Paul dira: j'ai planté, Apollos a arrosé et Dieu a fait croître, en ce sens que nous sommes, Apollos et moi, collaborateurs de Dieu, ouvriers avec Dieu, mais c'est à lui, Dieu qui fait croître d'une manière qui nous échappe totalement, puisque c'est dans l'image de l'agriculture, c'est la nature qui prend le relais à partir du moment où on a mis la graine et la terre en relation. Cette croissance nous échappe d'une manière totale, et c'est à Dieu qu'en revient toute la gloire. Nous avons mis aussi en évidence la semaine dernière que cette notion de collaborateur de Dieu, exprimé dans la traduction que nous prenons pour notre mot d'ordre, ouvrier avec Dieu, traduction peut-être un peu moins précise, mais cette notion débordait du seul cas d'Apollos et de lui-même, et débordait des seuls ministères à plein temps, puisque Paul utilisait le mot collaborateur pour parler d'autres personnes que des personnes à plein temps, comme on dit de nos jours. Il employait ce mot collaborateur non seulement pour désigner des plein temps, entre guillemets, comme Tite ou Timothée, mais aussi Priscille et Aquilas, qui étaient faiseurs de tentes de leur état, et dont on a un petit peu parlé aussi la semaine dernière. Et donc, nous aussi, nous sommes collaborateurs de Dieu, nous sommes en situation de planter, nous sommes aussi en situation d'arroser, nous avons une terre à préparer, des graines à planter, et nous avons de l'eau pour arroser. Et pour en terminer avec cette partie agricole, agraire, hein, de cette image du chantier du Seigneur, Paul déclare aux Corinthiens, vous êtes le champ de Dieu. Et nous avons conclu dimanche en disant que là se commençait à se profiler la notion de disciple, comme l'avait institué notre Seigneur, faites de toutes les nations des disciples, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Dans le champ de Dieu que nous sommes, Dieu et d'autres collaborateurs ont travaillé afin que nous devenions à notre tour collaborateurs de Dieu auprès de nouveaux disciples, tout en continuant ce travail sur nous-mêmes, puisque nous sommes les ouvriers et le champ, en laissant aussi travailler Dieu en nous et ses collaborateurs, puisque nous demeurons le champ de Dieu, le disciple fait de nouveaux disciples, disciples que Dieu fera croître, tout en demeurant disciples que Dieu fait lui-même croître. On pourrait prolonger un peu cette image de tirer de l'agriculture. Hein. Quand on fait une récolte, on met des graines à part pour être semées l'année suivante, etc. Et donc c'est cette image du champ qui s'étend et qui se perpétue. Et nous en arrivons donc à la deuxième partie du verset. Vous êtes l'édifice de Dieu, ou en mot à mot, de Dieu, construction, vous êtes. Et donc là, bien que restant sur le chantier de Dieu, nous changeons totalement d'image. Du champ, nous passons à l'édifice. Nous quittons cette image agraire qui a occupé la première partie de ce chapitre pour passer à une image immobilière. Le champ représentait la dimension horizontale, la dimension extensive du champ, et nous basculons dans une dimension verticale, la dimension verticale d'une construction qui progresse vers le haut. Et c'est bel et bien ce qui va faire l'argumentaire de Paul dans les versets qui suivent, avant qu'il en revienne à sa considération de départ, c'est en Dieu seul que réside notre gloire, et nous ne sommes que ses collaborateurs, si tant est que nous nous attelions fidèlement à cette tâche. Et donc, je vous propose de lire la suite de notre passage. Arrivé là, je dois prendre une précaution. Vous savez que Eric nous conduit dans l'étude de l'Épître aux Corinthiens. Et donc, je reviens un petit peu en partant de ce verset, dans les versets qui suivent, je reviens un petit peu sur ce passage-là. Pour tout vous dire, j'ai renoncé à réécouter sur le site ce sur quoi Eric a prêché, en me disant, si j'écoute et puis que je redis les mêmes choses, pas terrible. Si je fais exprès de dire des choses différentes, c'est pas terrible non plus. Donc c'est moi j'en retiens, ce que le Seigneur a mis sur mon cœur. Et si Dieu veut que des choses soient répétées, la répétition fait aussi partie des choses que la manière d'enseigner. Paul répète très souvent les mêmes choses aux mêmes personnes. Et s'il y a des choses différentes, ça illustrera la complémentarité que justement dont Paul parle en parlant de lui-même et d'Apollos. Voilà, je vous invite à ouvrir nos Bibles dans l'Épître aux Corinthiens, à partir du chapitre 3, à partir du verset 9. Car nous sommes ouvriers avec Dieu, vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Selon la grâce qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâti dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. Car le jour la fera connaître, parce qu'elle révélera dans le feu, elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous ? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Que nul ne s'abuse lui-même. Si quelqu'un parmi vous pense être sage selon ce siècle, qu'il devienne fou afin de devenir sage. Car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. Aussi est-il écrit, il prend les sages dans leur ruse, et encore, le Seigneur connaît les pensées des sages, et il sait qu'elles sont vaines. Que personne ne mette donc sa gloire dans des hommes, car tout est à vous, soit Paul, soit Apollos, soit Céphas, soit le monde, soit la vie, soit les morts, soit la mort, soit les choses présentes, soit les choses à venir, tout est à vous, et vous êtes à Christ, et Christ est à Dieu. Ainsi, qu'on nous regarde, je continue sur deux versets dans le chapitre 4, qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ et des dispensateurs des mystères de Dieu. Du reste, ce qu'on demande à des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Et donc, dès le départ, dans cette partie immobilière, cette deuxième partie immobilière du verset, Paul parle du fondement que lui-même a posé, et il dit « comme un sage architecte ». Est-ce que Paul ferait preuve de vantardise en se comparant à un sage architecte qui peut se considérer comme sage? En quoi nous pouvons-nous nous prétendre sages? Et c'est bien d'ailleurs le sens de toute une partie de la question qui développe ensuite. Mais cette idée de sage architecte fait aussi écho dans mon esprit à une autre expression bien de notre époque, comme celle qu'on emploie quand on demande à un administrateur de société, à un intendant d'association, d'adopter une gestion qu'on appelle de bon père de famille. Une gestion sûre, sans risque. Est-ce que ce n'est pas là ce que nous attendons de notre président, de notre trésorier? Et ça n'exclut sans doute pas la hardiesse dans l'action qui fait l'objet de notre association en tant qu'Église, par exemple, qui est l'exercice du culte. Notre objet, c'est l'exercice du culte, la proclamation de l'Évangile, mais éviter la hardiesse dans la gestion financière et administrative qui doivent être, elles, saines et sans prise de risque inutile. Cette image de l'intendance, sage architecte, est très frappante dans une personnalité comme celle de chez Paul, qui, on l'a vu, est quand même quelqu'un qui est prêt à beaucoup de choses. On l'a vu à l'œuvre il y a quelques mois sur l'Aréopage, lorsqu'il s'adresse aux Athéniens, son discours est tout de même hardi. Lorsqu'il déclare leur annoncer le Dieu inconnu dont il est fait mention sur un de leurs autels. Personnellement, si une telle l'idée d'un tel parallèle m'était venue à l'esprit, je ne sais pas si j'aurais osé la formuler. Quand on entend les propos qu'il tient sans se dégonfler auprès du gouverneur, auprès du roi Agrippa, sans pour autant leur manquer de respect, mais et puis carrément, j'en appelle à César. C'est quand même, il s'exprime d'une façon hardie et on comprend qu'on a affaire à quelqu'un qui ne se laisse pas impressionner. Je trouve un épisode du livre des Actes assez remarquable, en ce sens qu'il dépeint quand même une certaine idée de sa personnalité, son caractère fort de sa personnalité. C'est quand lui et Silas sont battus publiquement et enfermés avec ordre des magistrats au geôlier de bien les surveiller. Et puis qu'ensuite, on vient les relâcher, mais on veut les relâcher en secret. Et là, Paul exige que ce soit ceux-là même qui les ont fait enfermer, les magistrats, ceux-là même qui viennent maintenant les remettre en liberté, puisqu'on les a battus publiquement, enfermés publiquement, on doit les libérer publiquement. C'est tout de même hardi comme attitude, vous en conviendrez. Mais s'agissant du fondement de la foi chrétienne et de l'Église, pas d'innovation et pas d'aventure. Cela ne peut être que Jésus-Christ. Et Paul souligne d'ailleurs, presque à la toute fin de ce que nous, du passage que nous avons lu, que ce qu'on demande à des intendants, c'est d'être trouvé fidèle. Et je pense que c'est en faisant référence à cela que Paul emploie cette expression de sage architecte et qu'il incite avec quand même un avertissement quand même très fort hein, dans tout ce que nous avons lu, à ceux qui poursuivraient cette construction à considérer la chose avec une certaine gravité et à ne pas prendre à la légère. Collaborons avec Dieu avec tous nos dons, avec toutes les capacités dont il nous a dotés, avec toute la vision et la hardiesse qui nous anime, mais toujours replaçons-nous devant le Seigneur afin qu'il éprouve nos motivations, afin qu'il sonde nos aspirations. Et ça fait réfléchir. Parce que quand on prend la mesure de la valeur du fondement sur lequel tout a été posé, du fondement qui a été posé, Jésus-Christ lui-même, le préjudice qu'il y aurait à l'utiliser pour une œuvre qui ne ferait pas partie intégrante de la construction serait considérable. J'ai gardé dans mes souvenirs professionnels du temps où j'étais en Bretagne un épisode assez savoureux qui s'est passé avec un des directeurs d'un atelier que nous avions, enfin quand je dis nous avions, j'en ai peut-être pas le propriétaire, mais que notre maison mère avait sur le bord de la mer de la Manche, et le directeur général avait demandé à ce directeur de site, hein, d'atelier, de réaliser un prototype. J'en ai pas trop gardé la mémoire, mais de quelque chose en rapport avec le cyclisme et un engin motorisé en rapport avec le cyclisme, je ne sais pas trop ce que c'était. Je ne me souviens plus trop. Et puis ce personnage très, très bricoleur et tout a travaillé. Un budget lui avait été alloué pour cela et il a travaillé. Et puis quelques mois plus tard, il a dit ben, si vous voulez venir voir. Et là, il nous a fait découvrir prototype d'un objet pour parce qu'il était navigateur, il avait un voilier, il était navigateur et il s'embêtait beaucoup à sortir son voilier de l'eau à chaque fois qu'il rentrait de la mer, et il avait fait un appareil très bien fait, très bien conçu, vraiment génial pour sortir les bateaux de l'eau. Mais le directeur général dit mais c'est bien, mais c'est pas ce que je t'ai demandé quoi, c'est pas le c'était alloué un budget voilà, pour faire ça. Et alors ce gars-là il bégayait un peu, il dit oui, mais ça c'est mieux ça. Ben oui, mais c'est mieux mais c'est pas ce qui t'a été demandé. Et donc voilà qui illustre un petit peu hein, le propos de notre responsabilité par rapport à l'œuvre de Dieu et par rapport à la continuité par rapport au fondement qui a été posé. Et Paul enfonce le clou à propos de cette question de la sagesse. Ce qui est sage au regard humain ne l'est pas forcément au regard de Dieu. Et il serait sage au regard humain de nos contemporains de 2015 que nous bénissions l'union de couples de même sexe. Ça rendrait l'Église beaucoup plus abordable au commun des mortels de notre siècle. Ça nous procurerait un capital sympathie qui nous faciliterait certainement les choses. Sauf que c'est bien en parlant du processus qui a conduit les hommes là où nous en sommes aujourd'hui, dans notre pays, et c'est bien sur ce point que Paul dit que c'est à l'instant même où ils se sont vantés d'être sages qu'ils sont devenus fous. Je posais la question de savoir si Paul ne péchait pas par vantardise en faisant référence à sa propre sagesse comme architecte. Mais la différence, c'est qu'avec cette vantardise-là, et qu'elle se vante non d'elle-même, mais du fondement sur lequel tout repose. Par deux fois, Paul le répète aux Corinthiens, que celui qui fait le fier mette sa fierté en le Seigneur. Vantez-vous si vous voulez, mais que ce soit pour vous vanter, que ce soit pour vanter la présence du Christ en vous. Et j'ai noté rapidement tout à l'heure, dans le chant qu'on a appris, que nous ne connaissions pas tout à l'heure, nous avons chanté « Tu es le roi dont je suis fier ». Voilà quel est l'objet de notre fierté. Dieu, Jésus-Christ, est l'objet de notre fierté et nous avons de très bonnes raisons d'en être fiers. Et ce n'est pas de la vantardise que d'être fier de notre Dieu. Et donc Paul de conclure, par conséquent, ne vous vantez pas non plus de nous, ne vous revendiquez pas ni de Paul, ni d'Apollos, ni même de Pierre, hein, ou Céphas, selon les traductions, mais vantez-vous de connaître Jésus-Christ, fondement même de votre foi, créateur de toutes choses, à qui tout appartient, vous et nous compris, et dont vous êtes héritiers. Cette question de la considération comparée qu'ont les Corinthiens entre Paul et Apollos semble vraiment être une vraie préoccupation pour Paul, tellement il en parle et en reparle et revient dessus dans tout ce début d'épître. Il semble atterré de les voir ainsi se concentrer sur des choses aussi terrestres que celles-là, voire même puériles. La vision qui voudrait les voir embrasser est tellement élevée en comparaison de cela. Le chantier de Dieu, collaborer avec Dieu, le chant de Dieu, la construction de Dieu. Et pour leur faire prendre conscience du caractère sacré et élevé de ce qui devrait les préoccuper vraiment, Paul va préciser l'image de la construction de l'édifice en employant un terme très fort, celui de temple. Et vraiment pour les Juifs, l'image du temple est une image forte et je me demande même si elle ne friserait pas le blasphème à leurs yeux à cette époque où le temple était encore debout et faisait l'objet de leur fierté comme on le voit dans les évangiles. Mais il n'y avait probablement pas que des Juifs dans l'église de Corinthe et il y avait aussi à Corinthe des temples dédiés à des divinités de toutes sortes qui étaient nombreux et j'imagine considérés et respectés. Et pas seulement pour leur architecture. Comme aujourd'hui, on considère le temple plutôt en rapport avec l'architecture en oubliant peut-être qu'on a d'autres temples un peu moins matériel, un peu plus caché, mais qui reste tout de même des objets assez sacrés. Un temple est un monument sacré, un sanctuaire. Mot à mot, Paul leur dit, un peu comme dans la même structure de phrase que ce que nous avons vu à propos de champ de Dieu ou édifice de Dieu, « Ne savez-vous pas que sanctuaire de Dieu vous êtes ?» Et pour les Juifs, cette image du temple est encore renforcée quand il mentionne l'Esprit de Dieu qui habite en eux. Il leur rappelle la gloire de Dieu qui remplissait le temple de Salomon. Et vraiment, là encore, par cette phrase, Paul se montre très hardi. De Dieu construction nous sommes, sanctuaire de Dieu nous sommes. Et en tant qu'Église, nous formons ce temple, et ce ne sont pas les murs qui en définissent les contours, pas plus que ces murs ne délimitaient le champ que nous sommes également. Nous avons un projet immobilier qui est toujours d'actualité, mais ne nous trompons pas, le temple ne sera pas ce nouveau et futur bâtiment, quel qu'il soit. Que des gens de l'extérieur l'appellent temple, grand bien leur fasse, et c'est déjà pas si mal s'ils lui en reconnaissent ce statut, mais c'est encore l'illustration de ce qu'est la vision d'une sagesse toute humaine. La vision que Dieu nous donne de voir dans sa sagesse fait de nous les pierres vivantes du temple de Dieu, du sanctuaire de Dieu. Et donc c'est encore une bonne raison pour ne pas prendre la chose à la légère. Il est assez amusant de constater, il y a le ventilateur qui me tourne les pages, il est assez amusant de me constater que Pierre vient prendre sa place ici. Hein, il parle de Pierre, alors il en a aussi parlé au tout début, mais jusqu'à présent c'était vraiment entre Apollos et lui hein, que ça se jouait. Mais là il est assez amusant de constater que Pierre vient prendre sa place aux côtés d'Apollos et de Paul dans cette partie immobilière. De la représentation du chantier de Dieu. Sa mention n'est pas sans nous rappeler l'image immobilière hein, qui est attachée quand même à la personne de Pierre en multiples occasions dans le Nouveau Testament, notamment lorsque Jésus lui déclare « Tu es Pierre et sur cette pierre je bâtirai mon Église ». Mais comme pour Apollos et comme pour lui-même, la mention de Pierre est ici pour nous dire ne vous attachez pas aux pierres. Comme ces disciples dont parle l'évangile, dont parlent les évangiles et qui tentent d'attirer l'attention de Jésus sur les belles pierres qui ornent le temple. Hein, vous vous souvenez de cet épisode où Jésus et ses disciples sortent du temple et on essaie d'attirer l'attention sur ces pierres et il leur dit il ne restera rien du tout. Il ne restera pas pierre sur pierre qu'il soit renversé. Ne vous attachez pas aux hommes, aussi remarquables soient-ils, ne fondez pas sur eux le temple que vous formez. Et Pierre lui-même ne dit autre chose lorsqu'il évoque dans sa première épître Jésus comme la pierre angulaire et les croyants comme des pierres vivantes qui doivent s'édifier pour former une maison spirituelle. Et Paul redit presque dans les mêmes mots la même chose aux Éphésiens quelque temps plus tard. Je vous le lis, ça fait partie du chapitre, dans le chapitre 2 de l'épître aux Éphésiens. « Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ étant lui-même la pierre angulaire. » En lui, tout l'édifice, bien coordonné, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Il y a exactement les mêmes choses. Hein. On retrouve exactement les mêmes ingrédients que dans l'Épître aux Corinthiens. La construction, l'édifice, le temple, tout ceci constitue la dimension verticale du chantier du Seigneur auquel nous sommes appelés à collaborer. Il s'agit d'un édifice qui élève vers Dieu sa louange, sa reconnaissance, son adoration et son action de grâce. Construisons le temple du Seigneur. Construisons l'Église. Construisons hardiment et avec entrain. Mettons au service de Dieu et de l'Église les dons dont il nous a équipés, la vision dont il nous a animés. Construisons sagement, construisons fidèlement sur le fondement qui a été posé, Jésus-Christ.